Pigeot Immobilier, La Française Immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Madame, Monsieur, bonjour. On est ravis de vous retrouver sur le plateau de Pleine Lucarne, d'autant que cette année 2024 débute plutôt bien pour Julien Stéphan et ses hommes. Deux matchs, deux victoires, une en coupe, l'autre en championnat. C'était le week-end dernier et c'était face au dauphin du PSG, l'OGC Nice. On va revenir sur ce match, mais on va parler aussi beaucoup de Mercato, parce qu'on est en plein dedans. Ça fait déjà deux semaines qu'il a ouvert le Mercato. Aucune recrue pour l'instant côté Rennais. Il y a l'affaire Matic aussi qui va beaucoup perturber les esprits dans les jours et dans les heures qui viennent peut-être. On parle de tout ça avec Christophe Penven de TVR. Salut Christophe.
Salut Vincent.
On est avec François Rosy de France Bleu Armorique, c'est la voix du foot à la radio. Salut François.
Salut Vincent.
Johan Rigaud de l'équipe nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine encore. Salut Johan.
Bonjour Vincent.
Et puis Guillaume Lenné de West France est avec nous. C'est le spécialiste de la tactique, de la technique. C'est spécialiste presque maintenant aussi du mercato. Salut Guillaume.
Salut Vincent.
On
ne
perd pas de temps et on regarde le résumé quand même de ce que l'on a vécu dans le froid. C'était samedi soir. Regardez le résumé de Rennes-Nice. Moins 2 degrés, on a caillé, mais Rennes a bu du petit lait. Et on pouvait pas le savoir, mais dès la 10e minute, un centre, une tête de Kalimuendo non cadrée sur ce centre de Guéladoué. Une reprise ensuite sur ce centre de Truffert signé Bourigeau. C'est directement sur le gardien Boulka qu'on va beaucoup voir dans la première demi-heure. On le retrouve ici. Alors voilà, Monsieur De Chépy ne siffle pas une faute qui paraissait évidente. Derrière, le ballon revient jusqu'à Kalimuendo pour Terrier. Frappe de Terrier, Boulka se détend sur sa droite et on voit la belle frappe de Terrier qui a toujours pas retrouvé le chemin à défiler. La passe magnifique de Lefebvre pour Kalimuendo qui va tenter de glisser entre les jambes du grand gardien niçois en vain et ça fait toujours 0-0, mais ça va se décanter sur cette action. Regardez, au début il n'y a que Kalimuendo qui voit la main. Il n'y a que Kalimuendo qui lève le bras. Aucun Rennais ne va voir M. De Chépy. Le ralenti et heureusement l'excellent M. Buquet à la VAR, même s'il n'était qu'adjoint à la VAR, appelle M. De Chépy pour lui dire « Regardez, il y a une main de Rosario. Oui, il y a main. Il y a pénalty. Transformé par Benjamin Bourigeau. Frappe sèche alors que Boulka était parti quand même du bon côté. » Et Rennes, à la mi-temps, mène 1-0. Il y aura quand même une petite réaction niçoise parce qu'on n'a pas beaucoup vu les Niçois, ouais. Notamment sur cette action et sur cette tête étonnante de Laborde sur laquelle eh bien, Mandanda est vigilant. Deuxième mi-temps, on joue depuis 7 minutes. Action magnifique. Lefebvre lance Kalimuendo qui de près vient tromper et doubler la mise. Donc vient tromper Boulka. 2-0. Les Rennais qui ne tremblent pas beaucoup dans cette rencontre dont on va parler et qui est une rencontre plutôt sereine et plutôt intéressante. Lefebvre, on le voit encore faire un festival là, sur son côté droit pour Kalimuendo qui s'avance mais qui ne va pas trouver le cadre. Kalimuendo, 3 buts en 2 matchs. Et puis, voilà, quelques éclairs quand même dans la grisaille niçoise. Là, la tête de Guessant va passer au-dessus. Rennes n'aura plus de peur dans ce match et aurait dû marquer un troisième but. Oui, mais voilà, Salah a fait une chose un peu étonnante, un geste que lui seul avait dans sa tête parce que le stade entier le voyait faire autre chose. Et donc finalement, le stade Rennais s'impose 2-0 face à Nice. Regardez le classement, ça ne change rien. Rennes est toujours 10e avec 22 points. Alors c'est un peu mieux par rapport au bas de classement, mais il va falloir cravacher sec pour aller chercher des choses un peu plus hautes. Il faudra sans doute faire une série. D'ailleurs, c'est la question que je vous pose, les garçons. Rennes est toujours en lutte pour le maintien, François ?
Bah oui, quand même encore, parce que Rennes a 6 points d'avance, on le voyait sur le 16e Lyon. Et c'est le prochain adversaire en Ligue 1. Donc voilà, si vous perdez du côté de Lyon, ils reviendront à 3 points. Donc ne serait-ce que mathématiquement, vous le jouez encore. Mais vous jouez autant finalement le top 7 qui pourrait être européen si le vainqueur de la Coupe de France était dans les 6 premiers. Donc voilà, vous êtes dans un entre-deux, quoi. Vous êtes à votre place, 10e. Mais voilà, il faut encore regarder un peu derrière et puis avoir aussi de l'espoir devant.
Ouais, vous êtes d'accord que pendant quelques temps encore, Rennes va jouer plutôt en regardant en bas ?
Rennes est un peu plus proche du 16e que du 6e. Hein. Il y a 7 points sur Reims. Mais il y a quand même des équipes beaucoup plus concernées par le maintien que Rennes. Il y a un petit décrochage qui s'est fait. Montpellier, Nantes, Clermont, Toulouse, tout ça, ça joue clairement le maintien. Rennes, c'est quand même en train de relever la tête. Donc il joue quand même, il regarde plutôt vers le haut. Quoi.
Oui, c'est clair que la dynamique, elle est quand même...
La dynamique est récente, donc on va pas s'enflammer.
Oui, c'est vrai qu'elle est récente.
On peut quand même se permettre de dire que le Stade Rennais peut regarder plutôt en haut que en bas.
Il y a un petit espoir européen, Guillaume ? On va revoir le classement. Attention, oui, alors pas de remarques genre « Ah bah oui, mathématiquement, tout est possible ». Oui, non, mais si on regarde la dynamique des uns et des autres, la puissance des équipes de devant, je dis pas que vous alliez le faire, Guillaume.
Mathématiquement, tout est possible. Ouais.
Non, mais c'est factuel. Après, oui, il y a quoi ? Il y a 6 points sur le 7e ?
Oui, mais voilà, il y a des grosses équipes devant, je pense.
Oui,
hein,
oui, mais il y a aussi y a 3 équipes ou 4 équipes à dépasser pour obtenir la 7e place. Avec une dynamique, avec une série de victoires, oui, ça peut aller vite. Hein. C'est évident qu'aujourd'hui, c'est possible que le Stade Rennais, s'il arrive maintenant à enclencher une série, parce que c'est maintenant que ça joue, hein. Il y a Lyon effectivement, puis ensuite il y aura des matchs
Montpellier,
il y aura des matchs abordables entre guillemets.
Ouais, il y aura Clermont, il y aura Le Havre, tout ça, Rennes a un calendrier.
Il y a 48 points à distribuer. Pour moi, le Stade Rennais veut espérer décrocher une place européenne, il faut au minimum 30 points, 30 même plus pour arriver à 30 points.
Donc finalement, Rennes ne sera pas européen, c'est ça que vous dites.
Il faut faire.
Je vous rappelle qu'on disait quand même il y a quelques semaines qu'on jouait le maintien. Enfin, je veux dire, à la mi-temps
contre Clermont, c'est pas
si vieux.
Oui.
À la mi-temps contre Clermont, c'est pas si vieux. Je pense qu'il y avait même des gens qui se disaient, mais on y va tout droit.
Oui.
Et on est à peine quoi, 2 matchs et demi plus loin maintenant.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même.
Non, non, mais c'est vrai.
Maintenant, on serait à dire, c'est bon, tu traînes.
Mais c'est la Ligue 1 aussi cette année. Elle est quand même homogène et faiblarde globalement. Donc voilà, tout le monde se tient un peu. Il suffit d'une série de 2-3 victoires pour que en fait toutes les tendances s'inversent et qu'une équipe qui semblait dans le trou, voilà, on parlait de Lyon juste avant le match d'hier contre Le Havre. Il y avait certains à Lyon, ah oui, jouent peut-être la Coupe d'Europe, la super dynamique, machin. Résultat, ils perdent à Lyon, ils sont encore dans la nasse. Voilà, c'est vraiment fragile, quoi.
Après, on voit que Lille et Reims, c'est quand même régulier. Il faut quand même doubler Lens et Marseille aussi. Le podium, évidemment, ça paraît illusoire, mais il y a un sacré défi. Oui, il y a quand même une remontada à faire éventuellement.
Voilà, puis tout le monde se dit, peut-être que Brest va pas rester, le club ami. On va peut-être pas rester là où il est.
Feu le club ami.
On en reparlera tout à l'heure de feu le club ami. Les Rennais sont convalescents, les Rennais sont pas guéris. On est tous d'accord là-dessus.
Ils sont sur la voie de la guérison.
D'accord, ils toussent moins.
Ce match de Nice.
Ils ont pris du sirop, ils toussent moins.
Quelques antibiotiques.
C'est un peu engorgé encore.
Oui, ils y sont parce que dans le contenu, c'est assez clair quand même.
Voilà. Le rebond est là. Quoi.
Oui. Moi, j'attends une victoire convaincante à l'extérieur. Parce qu'on rappelle, même depuis plusieurs années, le Stade Rennais à l'extérieur, ça va pas trop. Et s'ils veulent espérer encore atteindre une place en Coupe d'Europe, il va falloir forcément faire des résultats à l'extérieur, ce qui est un peu le mal rennais encore.
Oui, mais Christophe, on disait aussi il y a quelque temps, Rennes n'arrive jamais à battre une équipe de son championnat, n'arrive jamais à battre les gros. Regardez Nice. À moins qu'on dise que Nice n'est pas un gros.
Si, c'était le dauphin du PSG. Mmh. C'est vrai, ça manquait ces dernières années au Stade Rennais. On voit que Julien Stéphan, mais on en parlera sûrement, a superbement préparé le match, son staff aussi, que ça a été une victoire tactique, parce que c'est une équipe très tactique, Nice. Certains diront très ennuyeuse.
Oui, oui, pour pas dire d'autres mots plus triviaux.
Auxquels je pensais également.
Sacrément chiante.
Merci de le dire, Guillaume. Mais voilà, et c'est vrai qu'avec des semaines entières de préparation, on voit Julien Stéphan arrive à obtenir des victoires. Qu'est-ce qu'il en sera quand les matchs se rapprocheront et que la Coupe d'Europe reviendra ? Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Après le match, vous avez tous dit, on va arriver maintenant sur match de samedi, là, où il faisait moins 2 degrés. On n'était plus habitués finalement à jouer par des températures négatives. Pourquoi vous parlez tous autour de cette table, pratiquement, de match référence ?
Parce que vous avez rien concédé ou presque, et que vous avez été bien plus dangereux que Nice. Vous avez fait, vous n'avez pas le ballon. C'est ça qui est différent
par rapport à quoi ? C'est ça que je
veux dire. Référence par rapport à cette saison, quand même.
Déjà, défensivement, on n'a jamais vu depuis le début de la saison le Stade Rennais être aussi peu en danger. Donc ça, c'est une référence sur la saison, sur les 20 matchs ou 25 matchs presque le Stade Rennais a fait. C'est le premier match où j'ai vu une défense aussi rassurante. Et après, ils ont laissé que des miettes à l'adversaire. Ils ont été pour une fois, et moi je trouve que le 4-4-2 c'était une bonne chose. On sent que les joueurs ont plus de sensibilité et sont plus à l'aise dans ce système là, plus de repères font que voilà, c'est en train de s'installer ce système, et ça se voit tout de suite dans les résultats.
Johan, référence aussi pour le journal L'Équipe.
C'est un match abouti, en tout cas, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'erreur grossière défensive comme on l'a voyait.
Zéro boulette.
Souvent, donc, et puis offensivement, ça a été efficace, pas mal d'occasions. Donc oui, il y a une animation offensive et puis surtout des progrès aussi, même sur les coups de pied arrêtés, que ce soit offensif ou défensif, il y a quand même des gros progrès de ce côté-là. Donc,
Rennes est l'équipe qui trouve le plus de joueurs sur coups de pied arrêtés indirects cette saison.
C'était quand même un gros.
Sans que
gros
ça fasse forcément but.
Oui, ça fait pas but tout le temps.
Mais, bah oui, mais quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à la réception très régulièrement. C'est la première équipe de Ligue 1.
Oui.
C'est l'équipe qui a le plus de pénalty.
Oui, c'est vrai.
Au-delà du schéma, ce qui fait plaisir, c'est qu'au moins, pour une fois, tout le monde, même les 11 joueurs quasiment, bon, Guéladoué peut-être un petit peu en dessous, et encore, il a quand même fait son match. Ont été à la hauteur. Franchement, depuis le début de saison, on se plaint du niveau très loin en fait de ce que doivent apporter certains joueurs. Là, globalement, même Terrier, qui n'a pas marqué encore une fois, certes, il a quand même été très précieux dans le jeu aérien, sur tout le match, notamment sur le deuxième but.
On le verra tout à l'heure. Oui.
Voilà, c'est quand même bien à ce niveau-là. Voilà, avec Aromari aussi qui peut-être. On espère pour lui à retrouver un peu de confiance à travers ce match-là et que ça va l'aider un peu pour la suite. Ouais,
il a été bon, Omari.
Et puis, c'est incontournable que l'état d'esprit est revenu, soit dans la solidarité entre joueurs, le jeu autour du porteur du ballon. On revoit du Stade Rennais avec du jeu sans et avec ballon qui est très intéressant, de l'agressivité, de la solidarité. Tout ça, c'est des points qu'on avait perdus sur cette première partie de saison, qu'on a vu clairement sur ce match-là.
Et assez bizarrement, Rennes n'a pas eu la possession sur ce match, alors qu'on a eu tous le sentiment que...
43% de possession. Seulement. Oui, oui.
Après c'est quoi, le jeu la position de Nice.
La position de Nice, c'est dans sa surface à faire tourner entre les centraux. Pas très inquiétant. Ouais.
Vous lui rajoutez quelque chose sur
après, c'était Nice aussi sans Todibo, sans Thuram, sans Boga. Donc il y a aussi.
Oui.
Et puis il restait sur deux défaites à l'extérieur, donc ils sont un peu moins bien aussi. Mais,
c'était Rennes sans Assignon, sans Wu, sans Gouiri. Non,
mais c'est peut-être
pas la même chose.
Sans Matich, dont on a parlé tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est ça. Ça c'est le truc. Ça c'est le truc de François. On en parlera tout à l'heure de monsieur Matich. Donc attention à l'enflammade, évidemment, c'est un peu comme ça, hein. On passe du tout ou rien, effectivement, François a raison, Rennes est à sa place, Rennes est au milieu, Rennes a fait... Mais c'est quand même le succès de Stéphane, ce match-là, clairement, non ?
Bien préparé sur le plan tactique, ça c'est sûr, effectivement. Il avait bien cerné les forces et les faiblesses. Bon, cela dit, il y a beaucoup d'équipes maintenant qui commencent à capter quand même avec Nice comment il faut faire, parce qu'au bout d'un moment, ça se voit un peu beaucoup. Voilà, le plan avait été sur le plan tactique, effectivement, avec pas surtout éviter de se faire aspirer. Le rôle de la première ligne, il l'a souligné d'ailleurs, c'est vrai. Hein, les deux, on était frappés au début du match, je sais pas si vous, ça a été le cas
que
aussi.
Exactement.
Terrier et Kalimuendo étaient en position d'attente juste pour cadrer, en coupant les lignes de passe. De la relance courte et c'était bizarre parce qu'au début on a l'impression que
ils sont à 50 cm du porteur qui est un défenseur central s'il prend le ballon
le public sifflait d'ailleurs
mais oui ça sifflait
il y a eu quelques
sifflets l'attentisme niçois que le fait que les Rennais
mais les gens disent mais pourquoi ils y vont pas donc ça a été bien préparé mais il avait dit un match par semaine. Il a vu des belles choses à l'entraînement. On dit souvent ça, les coachs. J'ai vu de belles choses à l'entraînement. Mais là, c'est sans doute un des succès. C'est le talent aussi de Julien Stéphan, le fameux. Vous lui avez posé la
question. Il a un plan.
Voilà. Julien a un plan.
Mais c'est vrai. De toute façon, c'est quelqu'un qui est très, très précis sur le travail tactique. Qui aime beaucoup ça. Et puis c'est vrai que là en plus c'était un adversaire. Je sais qu'il a beaucoup regardé Brighton pendant son temps sans travailler.
C'est ça.
Brighton qui est d'où vient Farioli. C'est un disciple de Zerbi, l'entraîneur de Brighton. Donc avec justement cette possession basse, ses sorties de balles. Donc voilà, il avait peut-être déjà travaillé même avant d'arriver à Rennes des plans face à ce genre d'équipe.
Et puis il avait joué plusieurs fois. Il habitait dans le sud avant de venir ici.
Il habitait pas loin. Oui, c'est sa victoire.
Ce qui est intéressant, c'était le positionnement de Marie aussi sur. Qui venait chercher Claude Maurice dans le camp niçois, et ça a beaucoup asphyxié aussi les sorties de balles de Nice.
Tout était pensé.
Mais pour faire ce genre de match tactique, il faut l'intégrer aux joueurs, et je pense qu'il a raison, Julien Stéphan, on le dit, j'ai eu le temps de préparer aussi les matchs, avec des entraînements dans la semaine, un match par semaine, ça aide à travailler sur ce genre de rencontres, et donc en fait, ils ont appliqué ce qu'ils avaient travaillé dans la semaine, clairement, parce qu'il y avait des choix très précis tactiquement à appliquer.
À tel point que les joueurs... ont rendu tous, et c'est assez rare quand même, un hommage plutôt appuyé au staff à la fin de la rencontre. Écoutez, Mandanda et Bourigeaud, par exemple.
On a très très bien préparé ce match-là avec le coach et le staff. Dans ce qu'on a mis en place, c'était quasi parfait. Tout ce qu'on a travaillé cette semaine, tout ce que le staff nous a demandé d'appliquer, on l'a bien fait. On marque deux buts, on n'en prend pas. On ne concède pas beaucoup d'occasions et ça, c'est une chose qui n'arrive pas souvent depuis le début de saison, donc faut prendre et faut savourer.
C'est quelqu'un qui est très très pointilleux sur l'aspect tactique. Comme j'ai dit, on a fait trois séances très fortes sur le plan tactique, sur vraiment les points forts de Nice et les points faibles aussi, et on a essayé de, en tout cas, le mettre en œuvre sur le terrain ce soir.
Voilà, et puis si on fait le pendant Genesio-Stéphane, eh bien Genesio c'est 12 points en 12 matchs, et Stéphane c'est 10 points en 6 matchs.
Surtout c'est la cinquième victoire déjà de Julien Stéphane en 9 matchs, toutes compétitions confondues, soit autant que Bruno Genesio sur les 16 premières journées. Voilà. Donc il y a quand même du crédit à donner évidemment à l'entraîneur actuel du Stade Rennais qui fait déjà aussi bien et qui fera mieux.
Enfin, et du crédit à donner à ceux qui ont soufflé son nom.
Oui.
Quelque part, pour qu'il revienne. Je ne sais pas si c'est les forces obscures, mais il y a des gens qui ont... Voilà. Et pour l'instant, ça paye. Pour l'instant.
Après, il faut aussi rappeler aux supporters, vous ne verrez pas le jeu de Bruno Genesio que vous avez connu ces deux dernières années. Julien Stéphane, c'est beaucoup plus pragmatique. Donc voilà, les envolées qu'on a pu voir et qui étaient parmi les plus beaux jeux
du Stade Rennais.
C'est un peu fini. C'est, voilà, mais si ça permet de gagner, évidemment, le Stade Rennais a besoin de ça.
C'est pas la première étape. La première étape, c'était de... Oui. De relancer cette équipe qui était un peu malade, donc après le...
Mais on a vu une équipe aussi emballante sur ce match-là, par moment.
C'est l'adaptation, Julien Stéphane, plus que... En fait, si Bruno Genesio, c'était le spectacle, Bruno Genesio, c'était souvent un plan A, mais pas de plan B. Enfin, en fait, on avait une manière de jouer, et c'était plutôt les autres équipes qui s'adaptaient à Rennes. Et avec Julien Stéphane, on le savait, c'était déjà la même chose lors de son premier mandat. C'est plutôt lui qui va s'adapter à l'adversaire.
Comment expliquer, Guillaume, que la sérénité semble revenue, y compris en défense, parce que... sur quoi ça joue pour que les joueurs se sentent à ce point mieux et à ce point différent de ce qu'ils étaient il y a encore un mois et demi, deux mois.
Ce qui est certain, c'est que déjà les résultats précédents quand même vont aider un petit peu. Clermont a fait du bien, mine de rien, avec juste avant la trêve, il y a eu les vacances. Les joueurs l'ont dit d'ailleurs, qui ont permis un peu de se ressourcer sur le plan mental, parce qu'il y avait quand même beaucoup de fatigue, d'usure aussi psychologique, avec quand même beaucoup de déceptions. Je pense que les joueurs sont revenus avec de bonnes dispositions après les fêtes. Et il y a eu Guingamp. Alors Guingamp, certes, Ligue 2, certes, Coupe de France. Malgré tout, vous avez gagné 2-0 là-bas. Vous n'avez pas encaissé de but. Voilà, le foot, c'est souvent, évidemment, c'est la confiance. On répète à longueur de temps que c'est une question de confiance. C'est la vérité. Il suffit parfois de petits riens pour un peu que certains joueurs franchissent un petit cran et que... Si collectivement tout le monde suit, et ben voilà, l'ensemble collectivement fait que vous arrivez à être mieux.
Au point de dire que pas forcément besoin de recrutement.
Ouais, attends, j'ai entendu
évidemment
le discours.
Qu'il faut être mesuré, oui, il va falloir du recrutement.
Mais plein de recrutement.
Mais c'est juste pour dire que ça va très vite. Il y a encore 15 jours, 3 semaines.
Marie, en étant ce symbole, comme disait Johan.
Et Vincent, je pense que vous pensez la même chose encore aujourd'hui. Il faut 6-7 joueurs. Moi, j'étais un des premiers à dire 2-3 joueurs, ça va aller. Ces joueurs-là en place ne sont pas si nuls que ça.
Vous voyez,
alors il ne faut pas s'enflammer.
Mais sur
une série comme ça, on se rend bien compte que ce groupe a de la qualité. Il ne faut pas tout révolutionner dans ce groupe.
Non, mais il reste. Oui, voilà, il y a quelques failles malgré tout à des postes qui sont identifiés, qui restent valables même si l'équipe a gagné 3 matchs de suite. Voilà, ça ne va pas tout changer non plus. Mais après, ça rassure quand même.
Et puis, surtout sur l'état d'esprit, je trouve, par rapport aux joueurs qui sont là, parce qu'ils sont perturbés forcément tous aussi par ce qui se dit sur le mercato. Omari, par exemple, forcément, puisque normalement un joueur va arriver à son poste. Voilà, au moins c'est quand même bien, je trouve, bon signe que les joueurs se sont investis aujourd'hui.
Il n'est pas lâché. Toujours été, moi j'ai le sentiment que le groupe a toujours été investi, toujours été travailleur, a manqué de confiance, mais que ça n'a jamais été vraiment une question d'état d'esprit.
Il y a eu quand même un peu des tensions à un moment.
Il y a eu des tensions, mais ça, alors, il y a toujours des tensions quand vous perdez. Mais justement, j'ai l'impression que ça a quand même plutôt bien vécu ensemble, continuer à travailler à l'entraînement, en tout cas essayer de se sortir de la nasse.
Illustration de cette sérénité, je vais vous montrer une image. Voilà, c'est en deuxième période. Regardez la sortie de balle et la façon dont, malgré la pression des attaquants, Rennes s'en sort. Regardez, ça va. À un moment, on aurait paniqué, il y a encore quelques semaines. Et regardez, là, on panique beaucoup moins. Il n'y a pas d'erreur technique. On se trouve. Et tout de suite, hop, on réussit à déstabiliser l'équipe adverse. Je l'ai mise, j'aurais pu en mettre une autre, mais ça joue plutôt pas mal. Ça va se terminer par un corner, bon, qui ne donnera rien si je ne m'abuse. Mais voilà, des choses qu'on avait quand même totalement perdues, alors que c'est plutôt du basique. On ne va pas se faire ici forcément les laudateurs de Stéphane en permanence, mais... Il a quand même indiqué que Rennes avait travaillé sur ses points faibles. Et parmi ses points faibles, il y a les fameux deuxième ballon. Écoutez, Julien Stéphane.
pour sortir le ballon, on peut le sortir court, on peut le sortir plus long. Donc quand on joue plus long, il faut jouer les deuxièmes ballons. Mais je trouve qu'on a été performants aussi sur les seconds ballons défensifs aussi. Bat, Enzo ont fait un gros travail aussi de retour, de repli. Faut aussi souligner la qualité des relances aussi de nos défenseurs centraux sur ce type de situation, qui n'ont pas mis des têtes n'importe où et qui ont bien visé nos joueurs pour qu'on puisse récupérer les deuxièmes ballons. C'est un enjeu essentiel, les deuxièmes ballons dans le jeu, dans le foot de haut niveau, surtout quand il y a du pressing. Et là, il y avait deux équipes qui cherchaient à faire du 1 contre 1 sur les départs de ballons bas adverses. Donc à partir de là, il faut absolument organiser l'équipe sur les deuxièmes ballons pour pouvoir valider ces situations de pression.
Réaction, Monsieur Rosy ?
Non, bah, je vais être sur ma marotte actuelle. C'est l'absence de Matic et la présence de Santamaria qui permet à Rennes de gagner plus de deuxième ballon, à mon sens. Parce que déjà, Baptiste Santamaria, c'est son registre. Il a toujours été excellent là-dedans depuis qu'il est arrivé au Stade Rennais. Et parce que lui, il n'a pas peur quand le ballon va être gagné sur un duel. Il ne va pas reculer de manière exagérée comme le faisait Nemanja Matic. Au contraire, il aime bien chasser. Et donc, il va chasser et gagne des deuxièmes ballons. J'ai l'impression d'être Pierre Lecomte en expérience. Je ne sais pas pourquoi.
Pour être précis, il a parlé du duo Le Fay-Santamaria. Juste quelques chiffres pour dire que Santamaria, c'est 78% de duels gagnés, 7 sur 9, c'est numéro 1 de l'équipe large, même des 22 joueurs, 7 ballons récupérés, c'est très haut, 6 ballons pour Le Fay, qui n'a perdu que 5 ballons et qui a 95% de passes réussies, Le Fay, numéro 1. C'est-à-dire il y a très peu de déchets dans une zone qui peut être un peu dangereuse, vous êtes sous pression, c'est des très bons chiffres.
Ouais, c'est Le Fay qui récupère le plus de ballons aussi, même s'il sort...
La clé du succès, c'est le milieu de terrain, effectivement, contre Nice. Clairement, les deux sont complémentaires, c'est vrai. Alors après, le débat avec Matic, oui, on peut l'avoir, on peut l'entendre. Après, moi, je resterai un peu plus mesuré.
On va
en
reparler de
Matic sur le global, mais
Matic, Le Fay, ça fonctionnait quand même.
Mais c'est un sujet qui nous occupe tous, qui vous occupe tous, vous qui nous regardez. J'aurais quand même parlé du deuxième ballon, juste pour dire que le deuxième but dont vous avez parlé, Guillaume, celui de Kalimuendo. Eh bien, regardez, un dégagement, un duel gagné de la tête par Terrier.
Deux duels gagnés.
Hein, pourtant, il aurait pu avoir peur face à Nice, Terrier, mais non. Et là, derrière, deux duels gagnés. Un 1-2, Bourigeaud Le Fay. Derrière, le petit ballon donné par Kalimuendo qui ne se pose pas de questions et qui vient tromper le gardien de près. Si on le regarde sous un autre angle, regardez la tête de Terrier. Voilà, là, le ballon, il est gagné une fois. Derrière, l'appel... est parfait dans la petite profondeur.
Qualité de l'appel aussi de Kalimuendo. Ça bute, moi je trouve typiquement Kalimuendo.
Kalimuendesque.
Mais qui attaque la surface de cette façon-là, quand il y a du mouvement vers l'avant, on sait qu'il est très intéressant par ses appels et c'est ce qui caractérise un peu ce but pour lui.
Et à chaque fois qu'on parle des buts de Kalimuendo, Pierre Lecomte avale son chapeau.
Les stats globales sont quand même pas encore géniales depuis son arrivée.
C'est vrai, mais
c'est juste bien en ce moment. Il y a 7 buts quand même, ça commence à
parler. Johan, allez-y.
Le Fay qui confirme son changement de dimension, Kalimuendo qui devient buteur, Omari qui se sauve un peu sur ce match. Donc il y a quand même pas mal de
points
joueurs
positifs
qui élèvent aussi leur niveau de jeu.
Justement, on va regarder les notes des joueurs après ce match, rapidement. Pour la première fois de la saison, aucune disparité dans les notes. Aucune disparité dans les notes. Qu'est-ce que ça dit, François Rosy ?
Ça veut dire qu'on est tous d'accord et qu'ils ont fait un super match collectivement. Avant tout, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui ressortent individuellement, mais c'était dur de mettre une note basse, je trouve, à qui que ce soit, parce qu'il n'y a aucun joueur qui est passé au travers. Et voilà, tout le monde a fait son match. Ouais, c'est la preuve que c'est un collectif qui a gagné avant tout.
Guéladoué 5,3, mais
ouais, je trouve ça dur. Voilà. Je l'ai pas trouvé particulièrement.
Non, mais vous êtes d'accord avec ces notes-là globalement ? On voit que c'est compact. Parce que toute l'équipe a été engagée.
Oui, un peu Désiré Doué, peut-être un ton en dessous, j'ai trouvé, mais...
Ouais, les notes le montrent aussi.
Ils se sont trompés avec Guéla en mettant les notes entre...
Désiré Doué, il apporte un truc différent. C'est vrai qu'il y a du déchet encore sur le match, sur le match d'hier. Après, encore une fois, quand il prend le ballon, ça casse les rythmes. Il a la faculté d'avoir le changement de rythme que n'ont pas beaucoup de joueurs à part lui. Et même si c'est pas toujours parfait, effectivement, et ça n'a pas été le cas contre Nice, il apporte un truc différent qui met un peu de... Voilà,
il défend bien aussi, moi je trouve qu'on dit pas assez que dans le duel, c'est un joueur très fort dans le duel physique.
Défensif.
Physique, ouais, quand il est sur le côté, je me rappelle à un moment d'une intervention où il vient, il passe devant l'Otomba, il met la jambe, l'épaule, tout ça, il est passé devant, il gagne. Hein. Moi je me rappelle sa première en amical contre Nantes à Saint-Nazaire où il avait bougé Moussa Sissoko, il l'avait envoyé pêtre à 3 mètres. Non, mais c'est aussi un joueur qui a cette faculté dans son jeu. C'est pas qu'un dribbleur.
On est tous d'accord pour dire que c'était le meilleur match de Marie. C'est difficile de dire autre chose en même temps.
C'est son match référence.
Lui, il en fait pas beaucoup pour que ce soit son meilleur match.
C'est son match référence. On est d'accord, c'est sans doute une question de confiance. On voit bien.
C'est la preuve qu'il est capable de dire ça, de faire ça, je veux dire, oui. Et que c'est pas le dernier des zéros dans son niveau moyen, enfin voilà, de ce qu'il peut faire en tout cas.
Il y a une Lefebvre dépendance à Rennes.
Mais le fait, pour moi, depuis le début de saison, enfin, je suis désolé, moi, je suis un défenseur, effectivement, comme d'autres, de Enzo Lefebvre. Le début de saison de Lefebvre n'a pas été très bon parce qu'il était blessé, encore une fois, on va le répéter. Il y a eu beaucoup de pépins physiques. Moi, ça fait longtemps qu'il est quand même le joueur clé de Rennes, depuis au moins 2 mois. Après, évidemment, il n'a fait que des matchs exceptionnels. Hein, mais là, moi, ça reste le joueur majeur. C'est un joueur, c'est un joueur qui. En plus, alors là, pour le coup, l'absence de Matic, moi, je suis convaincu que là, par rapport à lui, ça le libère.
Ça désinhibe.
Beaucoup, ça le désinhibe beaucoup parce que du coup, les ballons sont moins attirés par Matic et ils le sont beaucoup plus par le fait qu'il devient vraiment central dans la disposition, dans l'animation avec le ballon de l'équipe.
Mais parce qu'il est beaucoup moins complémentaire de Matic que ce qu'on a pu croire à un moment. Parce qu'en fait, il y avait quand même, forcément, de par leur physique, aussi, vous avez le lutin et le géant, vous dites ah bah ils vont être complémentaires. Sauf qu'en fait, dans les faits, ce sont deux joueurs qui aiment beaucoup toucher le ballon et qui sont tous les deux dans le même registre de casser la ligne par la passe et par les courses. D'ailleurs, ils sont à peu près tous les deux dans course et passe dans les meilleurs milieux de Ligue 1. Moi, je dis pas que Matic individuellement est un mauvais joueur, attention, sans doute un des meilleurs joueurs, même individuellement, de la première partie de saison de Rennes. J'ai juste que collectivement, pour les autres, c'est pas un joueur qui va se faire s'élever le collectif et notamment pour le fait est bien meilleur avec Santamaré.
Juste pour préciser, je trouve que le fait. En plus d'être intelligent sur le terrain, je le trouve intelligent aussi hors du terrain. C'est-à-dire qu'il a su se remettre en question. Souvent, hein, il l'a dit, hein, même en interview, quand il revenait derrière, j'ai pas été bon, j'ai fait n'importe quoi sur telle rentrée, ceci, cela.
Je trouve Blas que dit par la
rapport...
même chose.
Non, et ben justement, par rapport à Blas, je trouve qu'on n'a pas l'impression qu'il se remette vraiment en question, Ludo Blas, alors que et c'est ça qui, je trouve, à mettre au crédit de le fait. Il le dit clairement, il l'a dit, il n'a pas été bon à un moment, il a eu des blessures, et il a l'humilité juste, de voilà.
C'est toujours important quand même pour elle maintenant immédiate, c'est qu'effectivement, il faut quand même des bonnes nouvelles médicales.
Alors,
des bonnes nouvelles médicales.
Juste avant qu'on parle de ces nouvelles médicales, Guillaume, on va deux trois images de Lefebvre, parce qu'on en parle, mais je crois qu'on les a pas vues passer. Regardez cette passe. Alors, moi, je trouve que celle-là, elle est merveilleuse.
C'est Nzizou Lefebvre, cette passe.
Regardez ça.
Ah ouais, c'est là le petit prince de
Guerriado.
De Guerriado, c'est tout à fait ça.
Et là, voilà, comme il l'avait fait à Guingamp, c'est le meilleur pourvoyeur de ballon pour Kalimundo.
Ouais, c'est le meilleur passeur décisif de Rennes sur la saison.
C'est des passes verticales.
C'est un des joueurs européens qui gagne le plus de mètres avec le ballon. Alors ça, c'est aussi important à noter, hein, parce que c'est un joueur qui fait avancer l'équipe.
Par la course et par la passe.
Là, on voit pas bien l'action, mais sur le côté, c'est lui qui a donné le bon ballon à Kalimundo. Oui, vous parliez, on va voir des images, il a été blessé.
Il y a un problème à l'adducteur, surcharge à l'adducteur qui, a priori, n'est pas très grave.
Sur cette action, regardez. Voilà, il va se toucher l'adducteur droit.
S'il aurait dû arrêter là.
Mais il s'est arrêté assez tôt, apparemment.
Ouais, mais il a encore attendu. Il est reparti après. Il aurait dû, je pense, à ce moment-là, s'arrêter. Mais
il passe une IRM, je crois.
IRM aujourd'hui ?
Aujourd'hui ou demain.
Alors, moi, je suis pas spécialiste du médical sportif. Une blessure comme ça ou une douleur comme celle-là, c'est quoi ?
Il y aura quelques jours d'arrêt. C'est vrai que contre Marseille, ça paraît compliqué de le voir. Il y a bon espoir. Il y a bon espoir. Peut-être qu'il pourra jouer contre Marseille parce qu'il veut toujours jouer. C'est un joueur qui veut toujours jouer. Après, voilà, je pense qu'il faut pas prendre de risque. S'il faut pas surtout le palpiter, les adducteurs, c'est quand même sensible. Voilà, je pense que ce serait pas trop mal de le mettre un peu au chaud contre Marseille pour qu'il puisse être là contre Lyon.
Après, il y aura très démunis au milieu. Si vous l'êtes aussi, vous êtes en face de l'équipe peut-être la plus démunie au milieu de
Johan. C'est lui. Nous, on est un peu tous des grandes gueules. Et Johan, il a une voix comme ça. Alors
il est là. C'est pour les techniciens du son.
Il faut remonter le son à chaque fois quand Johan Rigaud parle. Oui, Johan.
Oui, non, il y aura peut-être un. Il y a Reader aussi qui est blessé, donc au milieu, c'est. Mais il y aura peut-être un nouveau milieu d'ici la fin de la semaine aussi. Donc.
Oui, ben voilà Reader justement. Il n'y a pas de chance. Alors lui, il n'a pas de chance. Lui, et qui fait la faute? Bah c'est Dante.
Votre ami Dante.
C'est incroyable, à chaque fois que Rennes joue contre Nice, il y a des blessés.
Là c'est le pied. Là c'est embêtant parce que
c'est pour un foot de toute façon.
Ah oui, là c'est
très. Ah c'est vraiment pas de chance mais
et puis ça met du temps.
Ouais, ça met du temps parce que c'est vraiment
un petit os.
C'est un peu le problème, c'est un peu le symbole aussi de son intégration un peu compliquée au Stade Rennais. Il découvre la Ligue 1, il voit bien que en prenant ce tampon, bah ouais, la Ligue 1 c'est un petit peu plus viril que le championnat suisse et malheureusement il prend cher.
Ouais, Rennes se retrouve un petit peu démuni. Par exemple, pour jouer contre Marseille, la solution, soit quelqu'un arrive, et encore, il faut que ça arrive vite maintenant, soit c'est Bourigeaud qui est au milieu alors.
Ouais, sûrement, ouais. Je le sentais.
Ouais.
Ah, sur le papier, ça ressemble à ça. Ouais. Enfin, en l'état actuel,
Santa, Bourigeau.
Mais c'est pas. Oui, et puis c'est logique.
Enfin, ouais, ça peut démarrer un match. Hein, ça peut,
et éventuellement, ça peut Jacquet. Match,
hein. Qui a fait une bonne entrée, ouais.
Oui.
On a aimé Jacquet.
Ouais. Ouais.
Tout à fait. et d'ailleurs, on va voir. Regardez, il a été très bon. Hein, il a récupéré un bon nombre de ballons. Regardez, là, c'est lui qui est à la course. On croit qu'il est dépassé. Hop, il tend ses grandes jambes.
Ça,
et voilà.
Un vrai réflexe de défenseur, par contre.
Ouais. Là. Voilà, tranquille.
Mais il avait déjà joué au terrain en réserve.
Hein. Montée de balle.
Il avait découvert le poste aujourd'hui.
Voilà, il a lancé à un moment, il a lancé Berthoug, c'était très bien. Et puis là, on va le voir encore intervenir. Voilà, il est calme, il relance, il panique pas. Il s'appelle Jacquet. Voilà.
Voilà. Non, mais c'est un très bon jeune joueur. C'est le meilleur de sa génération l'année dernière dans la Gambardella qui a fait demi-finale. C'était d'assez loin. Enfin, même s'il y avait Bélocian, mais qui faisait déjà un peu l'aller-retour avec les pros. Mais je me souviens de la demi-finale à Clermont. C'est le meilleur Rennais, alors qu'il y a Bélocian qui joue d'assez loin. Il marque, il avait été très impressionnant. C'est un joueur qui a.
Alors, pas s'enflammer non plus. On s'enflamme souvent. Mais les jeunes joueurs arrivent.
Il était question d'un prêt pour lui.
Ouais,
à Clermont quand même, en Ligue 1. Enfin, pour un joueur qui jouait jamais, c'est-à-dire qu'il y avait un club de Ligue 1 qui était prêt à se le faire prêter.
C'est toujours possible. Peut-être que c'est dans le deal avec Seydou qui n'a pas joué avec le Ghana hier.
C'est pareil, je crois.
Non.
Je passe pas sur ce lien.
Bah justement, puisqu'on parle de recrutement, l'affaire en fait, qui est quand même en fait l'affaire du jour, c'est que aujourd'hui, Nemanja Matić rencontre les dirigeants rennais. Alors à l'heure où on enregistre cette émission, voilà, c'est en ce moment. On ne sait pas si derrière va y avoir un communiqué ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui peut se passer?
Pas grand-chose, hein, à mon avis.
Qu'est-ce qui peut se passer?
Pas grand-chose.
Il peut se passer plein de choses.
Il peut se passer.
Il peut y avoir un transfert.
Il peut partir ou il peut rester.
Il n'y aura pas de transfert aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même peu de chances qu'il y ait du nouveau aujourd'hui sur le dossier. Ça va être probablement statu quo. Il va falloir que Matić trouve un club qui convienne à Rennes. En l'occurrence, ce n'est pas l'Olympique Lyonnais. Le propriétaire étant ferme sur les prix, on va dire ça comme ça, il n'y a pas beaucoup de raisons, enfin on ne voit pas en tout cas à l'heure actuelle les raisons pour lesquelles il change d'avis.
C'était quoi le prix d'achat?
Non mais ferme sur les prix, je veux dire ferme sur le principe, au-delà du prix.
Rennes l'aurait acheté quoi, 3 à 3,5?
Moi j'aurais entendu 3,5.
Plutôt moi j'avais dit 2, mais c'est entre ce qu'on lit et ce qu'on voit et le vrai prix. En tout cas, Lyon n'a pas les sous. Enfin, Lyon ne met pas ces sous-là.
Il y a une offre qui
prix, c'est pas insurmontable. Mais Lyon n'est pas revenu à la charge non plus. Donc ils n'ont pas fait deuxième offre depuis la première qui date quand même de début janvier. Donc on ne sait pas trop s'ils le veulent vraiment finalement.
Donc voilà, Matić n'a pas de proposition. Il revient un peu. La queue entre les jambes, enfin, en tout cas la tête basse.
Oui. Il a fait une amende honorable de communication, à mon avis, un peu plus. Quelque chose pour essayer de trouver, pour pouvoir trouver une sortie vers le haut pour
tout le monde. Il n'est pas revenu tout seul. Hein. Sa femme a posté des photos sur Instagram. Sa famille est revenue.
Tout le monde est revenu. Toute la famille est revenue.
Ils ont même fêté l'anniversaire de sa fille, si vous voulez tout savoir.
La petite, qui a 5 ans.
Ouais.
Mais le truc, c'est de savoir s'il trouve pas de club, parce qu'il a évidemment un salaire très élevé. Alors le rêve, j'imagine, pour lui, c'est de retrouver un club autour de Londres, puisque sa femme n'en voit que par Londres. Mais s'il trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le réintègre? Est-ce que c'est possible de le réintégrer aujourd'hui? On en parlait un peu avec les dirigeants rennais. Il dit oui, s'il faut, il réintégrera. Mais comment il va être accueilli? Vous imaginez au Roazhon Park par rapport au vestiaire? Enfin, je veux dire tout ça pose question.
Non, mais il y a une hypothèse qui quand même évidente, qu'on évoque un peu ce matin dans le journal, c'est une rupture de contrat à négocier, à qui pourrait intervenir après la fin du mercato, et les règlements, dans ces cas-là, il ne pourrait pas s'engager ailleurs.
Donc ça serait la fin de la carrière de Nemanja Matić.
Au moins jusqu'en juin. Après, aujourd'hui, a priori, Matić, comme vous le dites, il est revenu avec sa famille ici. Aujourd'hui, sa priorité, c'est de retrouver, on va dire, un épanouissement personnel et familial avec une école pour les enfants. Donc aujourd'hui, il y a peut-être, en l'état actuel des choses pour lui, la priorité, elle est là. Donc je ne suis pas certain, moi, qui serait effrayé par la perspective de faire 6 mois sans jouer et puis peut-être, d'arrêter sa carrière, je ne sais pas.
Mais de plus effrayé par la perspective de
quitter Rennes.
Mais de quitter Rennes. 4 mois à Rennes. Exactement.
Quel enfer de vivre 4 mois à Rennes, 350 000 par mois, quand même.
Et puis on voit que c'est...
Quelle galère.
On voit que ces choix-là, de partir comme ça, c'est extra-sportif. Je veux dire, sportivement, le joueur, il n'est pas en fin de course, il ne va pas prendre sa retraite. Moi, je n'y crois pas du tout à ça. Il va se relancer, prendre la ligne ailleurs peut-être, mais on voit bien qu'il a encore les conditions compétition pour faire une année ou deux années.
Quand vous avez des histoires perso, moi Gaël Danick nous racontait à l'antenne sur France Bleu Armorique qu'il avait une proposition de dernier contrat à 36 ans. Il était à Lorient à ce moment-là, que ce soit à Valenciennes ou à Paris. Et que finalement, face à lui, il avait dit oui à un des deux clubs. Et ses enfants et sa femme lui en ont dissuadé. Et finalement, il a arrêté le foot professionnel, on va dire, à ce moment-là. Enfin, il est allé à Laval, il est resté dans le coin, mais ils voulaient plus déménager. Et en fait, il s'en est rendu compte à cet âge-là. Donc peut-être que Matic, là, va se dire bon, est-ce que finalement, la pression que je mets à mes enfants, à ma femme, à bouger tout le temps.
Je suis désolé, on prend pas. Si on est en condition, on continue. Hein. Enfin, moi, je pense.
Non, mais ça va être. On est tous d'accord que ça va être compliqué.
Ah, bah, ça va être
de revoir Matic sous le maillot rennais. Moi, j'y crois pas.
Il y a 3% de chance que ça arrive.
Mais quand vous dites, Guillaume, un départ négocié, c'est quand même pas Rennes qui va lui donner de l'argent pour qu'il parte.
Ah bah, il va falloir qu'avec les avocats, on se retrouve aussi autour d'une
c'est
table.
Presque hein, à lui de donner de l'argent au club, quand même.
Ce sont des. Vous savez,
sans rien. Non, mais sans rien. On va pas le payer pour qu'il parte.
Dans le foot, vous savez, ce genre de choses, c'est toujours compliqué. C'est jamais. Voilà, il y a tous les partis. Il y a beaucoup de paramètres là-dessus.
On verra ce qui se passe.
Voilà, on peut pas en parler pour l'instant. Mais
avant la fin du mercato, il se retrouve libre. Il peut signer, oui, mais s'il se retrouve libre après le mercato, il peut pas signer.
Redites-nous ça en articulant et en parlant fort, Johan.
Non, mais c'est la question.
Parce que le gars, il a une barbe et il parle pas fort.
Ouais, c'est à cause de la barbe.
Et je sens que ce que vous aviez dit, là, ça m'intéressait tout le monde.
Non, mais oui, c'est ce que dit Guillaume. S'il résilie après la fin du mercato, il peut pas signer ailleurs, c'est ça?
A priori, non.
D'accord, donc il faut résilier dans les 15 jours.
Une fois libre, on peut signer où on veut.
Je me suis renseigné sur ce dossier, a priori c'est le cas. Ouais. Ce serait le cas. Après, bon, okay. On n'en est pas encore là aujourd'hui, il reste qu'un jour de mercato. Il peut y avoir aussi des portes de sortie. L'entourage de Matic, hein, c'est des gens qui sont très très implantés, on va dire, dans le milieu du foot européen. Beaucoup beaucoup de réseaux. Bon, il est toujours possible peut-être de trouver une solution.
Ouais. Ok, bon. En tout cas, ça va se décanter là dans la semaine, ça doit se décanter. La morale de l'histoire, c'était que Matic était trop gros pour Rennes. Rennes ne peut pas attirer ce genre de joueur, c'est
non,
fini.
Là,
c'est...
Je sais pas. C'est un cas perso, j'ai l'impression quand même. On est confronté face à quelque chose d'assez particulier, où voilà, c'est un joueur aussi qui a 35 ans. Ouais. Moi, je sais pas, c'est plus sur le sportif que je suis déçu.
T'as une femme qui est un peu paillette quand même.
Non,
mais ça dépend aussi, oui. Bah oui, mais.
Je suis pas là pour défendre les coordinateurs sportifs du Stade Rennais, mais ils font un gros boulot. Je ne les imaginais pas comment ils sont bichonnés, les joueurs, même pour régler leur télé ou pour régler leur facture EDF. C'est les coordinateurs sportifs.
Régler radio sur France Bleu Armorique. Ils cherchent. 103 points.
Non, mais là, c'est un cas particulier, un caprice de princesse, j'ai envie de dire. Ça c'est plus gênant.
Alors, on accélère. Accélérons.
Que quand tes enfants sont pas heureux, ça malentend pas.
Oui, c'est peut-être un malentendu.
On peut entendre les deux côtés. C'est un malentendu.
On peut pas tirer. Ok, je comprends bien.
Mandanda, il se régale à Rennes, il se plaît dans la vie rennaise, il est super bien accueilli. Voilà, c'est aussi une star. Autant que Matic pour moi.
Juste, il faut qu'on accélère. Je suis navré, mais Truffert à Marseille, vous y croyez? Gattuso l'a appelé en direct.
Non, mais que Marseille veuille Truffert, oui. Que Truffert soit très intéressé, oui. Il y a beaucoup de dossiers comme ça. Après, le propriétaire, encore une fois, aujourd'hui, c'est lui qui dira oui ou non. Et aujourd'hui, c'est non.
Les dirigeants
alors,
aussi.
Après, le propriétaire, oui.
J'ai pas dit propriétaire, mais bon, il y a aussi des gens entre qui vont lui dire non.
Je reprécise, tu as raison, effectivement. Non, mais je parle de ça parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne à Rennes. C'est forcément, tout est validé en haut lieu.
Et, par l'actionnaire.
Voilà, évidemment.
La Marseille. Il a l'air plus proche de faire le joueur écossais de l'Hellas Verona.
Oui, apparemment ça ralentit.
Et puis surtout, ils n'ont pas les sous.
Voilà, 25 sur l'Audi quand même.
20, ouais, après 25. Ouais.
C'est très. Ouais, 22 plus 3, je crois. Si
bah, bêtises, il pourrait l'avoir, mais c'est à peu près les os.
Oui, mais en fait, c'est le problème de tout ce qui s'est passé sur le mercato rennais, pour faire très court, ou pourquoi aujourd'hui, peut-être aussi, il n'y a toujours pas de signature à Rennes. C'est aussi parce que d'un mercato qui était attendu offensif, vous êtes retrouvé sur la défensive sur ce mercato, entre le Kamatic et entre des approches sur des joueurs qui ont été intéressés aussi par d'autres projets, donc Kalimuendo, Truffert, et qu'il a fallu. C'est du temps et de l'énergie aussi de perdu pour faire.
Rennes a déjà refusé il y a un an. De laisser partir Truffert, ils vont peut-être pas refuser. Il y a un an aussi, mercato de janvier l'an dernier, donc ils vont peut-être pas refuser deux fois. Si vraiment Marseille insiste, ça peut quand même.
Il va falloir mettre les sous. Et j'ai lu, entendu, vu que voilà, il y avait quelquefois des tergiversations et que tout le monde ne parlait pas d'une seule voix et que ça bloquait un petit peu pour ça et ça retardait des prises de décision.
Il y a des hésitations forcément, mais il y a aussi un autre paramètre quand même, c'est qu'aujourd'hui, Rennes et tout le monde sait que Rennes cherche des joueurs. Et tous les clubs, alors la fameuse taxe Pinot, c'est ça la fameuse taxe Pinot, elle existe clairement et évidemment, puisque les clubs demandent clairement à Rennes de surpayer les joueurs et de surpayer les transferts.
Mais ce qui est 10 millions de plus que pour les autres.
Alors que c'est pas le cas à Monaco. On ne demande pas, il n'y a pas une surtaxe pour Monaco.
François Pinault est beaucoup plus riche, je ne sais pas si vous êtes au courant quand même, que le président de Monaco.
Mais oui, mais Monaco, c'est...
Non,
mais
François Pinault est le propriétaire de club de foot le plus riche du monde.
Mais il y a une blague qui circule dans le milieu, c'est surtout si Rennes appelle, vous le dites, c'est OK pour tout, mais il faut entre 15 et 20 minimum.
Voilà. Ouais. 12 plus 3, s'il vous plaît, pour
ce. Non, mais c'est. Donc, mais, pour l'instant, deux semaines de mercato.
C'est plus dur quand même d'être attirant sur vos plans A avec une perspective pas évidente d'être européen la saison prochaine.
Ouais, ouais, donc deux semaines de mercato et pas un mouvement
et puis
encore.
Rennes veut des bons joueurs, forcément, ils veulent des bons joueurs. Et les bons joueurs, bah, les clubs qui les possèdent ne veulent pas les lâcher, a priori, c'est ce qui est logique. Donc forcément, les négociations sont difficiles, donc forcément, ça prend du temps, donc c'est compliqué.
Bon, Kalimuendo, je le trouve, moi, énigmatique quand il répond aux questions. Il a envie de partir.
Bah, moi, en tout cas, je dis pas que c'est une info, c'est la sensation qu'il donne, en tout cas. Comme Pierre Lesmelou a donné l'envie de venir à Rennes en répondant hier en zone mixte à Brest. Hein. Franchement, vous voyez l'interview, il dit jamais « je vais signer à Rennes », mais vous regardez toute l'interview, il y a un panneau lumineux qui dit « je veux partir à Rennes, Denis Le Saint, laisse-moi partir ». Mais non, mais c'est vrai.
Ah, mais, monsieur Le Saint veut pas le laisser partir. Hein?
Non, mais bon voilà, moi j'ai l'impression que Truffert veut aller à Marseille, Kalimuendo.
Il veut partir Kalimuendo.
Ouais, mais il fera pas non plus, il fera pas la grève hein, pour partir. Je...
Bon, mais on est d'accord, Guillaume et Johan, Lesmelou est une vraie piste.
C'est,
une
c'est la piste numéro 1, oui.
C'est la piste prioritaire. C'était la piste prioritaire, faut pas croire que c'est une piste qui a été déclenchée il y a 4 jours ou quand elle est sortie dans la presse. Elle existe depuis à peu près 3 semaines, je crois. Donc c'est avant même que Matic, enfin c'était compliqué déjà avec Matic à ce moment-là. Voilà, donc c'est une piste qui est
c'est pas une piste d'urgence.
C'est une piste qui est travaillée depuis longtemps et qui est travaillée
grâce à Pierre Lesmelou.
Oui, c'est une piste prioritaire. Après, est-ce que ça se fera? Voilà, il y en a d'autres, hein, des pistes.
C'est vrai que Rennes est européen grâce à Pierre Lesmelou et
c'est sa faute. Bah oui,
qui est donné. Mais par contre, Rennes ne peut pas surpayer Lesmelou. Enfin,
Jean. Il y a une offre, nous on a évoqué une offre de 12 millions d'euros.
12 ferme. Millions pour un joueur, il a quel âge?
30 ans.
Il a 30 ans.
Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que c'est que 6 mois, mais sur la première partie de saison en Ligue 1, c'est un des meilleurs milieux de terrain de France.
Ah, oui. Brest a dit que l'offre rennaise avait été respectueuse dans un premier temps, eu égard à l'âge. Ouais. Du joueur, hein, c'est
l'approche
à 30 ans, oui, hein, c'est très respectueux. Après, le président dit, oh, c'est pas sympa, ils l'ont contacté directement. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait.
C'est ce qui se fait tout le temps. C'est ce qui se fait tout le temps.
Marseille a fait ça pour Truffert, Francfort a fait ça pour Kalimuendo. Marseille a même appelé le joueur, enfin Matic, pour.
Mais ça se faisait pas trop quand même, on trouvait que c'était pas sympa d'appeler directement.
C'est quelque chose d'évident. Je veux dire, vous avez besoin de savoir avant si le joueur est intéressé pour venir chez vous, pour pas vous perdre derrière pendant 4 jours de négociation. Faire 12 plus 3, 12 plus 4, 12 plus 5, c'est bon, vous avez accepté l'offre, vous avez perdu 3 jours, puis le joueur il en a rien à foutre, il veut pas venir chez vous avez l'air con quoi.
Ouais.
Donc bon, il vaut mieux au moins sonder le joueur, il y a de certains de son intérêt.
Kalimuendo a un accord avec Francfort, enfin, d'après la presse allemande, ils ont déjà un accord avec le joueur en tout cas.
Kalimuendo, donc. Bah oui, il est d'accord.
Non, mais tous les transferts se passent comme ça. C'est, voilà,
c'est une règle, mais
Mbappé, il discute avec le Real avant de savoir s'il y va, voilà. Bon.
Bon, vous nous avez dit ici, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, de toute façon, ça va se décanter dans les dernières heures de ce mercato. Vous confirmez, Guillaume, qu'on va rien voir arriver là, dans la semaine avant de jouer un match contre Marseille?
Bah, peut-être un milieu, oui, c'est possible.
Ah.
Après, est-ce que le match de Nice ne change pas un peu la donne?
Ah oui, c'est ça.
Sur le plan défensif et offensif, ça...
Il y a plus d'urgence, oui.
Ah bah,
il y a plus d'urgence au milieu que derrière.
Avec la question qu'on avait, il y en avait un petit débat entre nous. Reader en moins le fait peut-être quelques temps en moins. Est-ce que ça veut dire qu'on prend deux milieux en plus? Et Matic en plus.
La priorité du club jusque-là, effectivement, était de prendre un central, un défenseur. C'était axé là-dessus. Là, depuis samedi soir, c'est le milieu de terrain qui est... voilà. Aujourd'hui, Santa Maria, faut pas non plus le bloquer totalement. Est-ce qu'ils vont prendre deux milieux de terrain? J'attends de voir quand même. C'est pas certain non plus. Il y en aura un, c'est sûr.
Oui.
Peut-être deux. Après, il faut voir aussi les départs en fonction. Vous savez, il reste 15 jours de mercato. Mais encore, il y aura beaucoup de mouvements, y compris dans le sens des départs potentiels. On sait pas, tout peut arriver. Hein,
c'est
franchement.
Rennes va jouer.
Les médias italiens disent que Naples a fait une offre pour Théâtre. Je savais personnellement qu'il y avait une offre ferme, effectivement, cet hiver aussi pour Théâtre. Qu'a priori, le joueur veut pas partir. Enfin, en tout cas, jusqu'à récemment, le joueur n'était pas chaud pour partir. Surtout, après, il faudra voir selon l'identité des clubs, peut-être qu'il va changer d'avis.
Et surtout, a priori, le club ne voudrait pas laisser partir Théâtre cet hiver.
Non, non, bien sûr. Voilà, bon. Mais lui non plus n'était pas demandeur.
Bon, donc, mais on va, Rennes va aller jouer à Lyon, qui a déjà 3-4 recrues. Partout, les gens ont des recrues, et pas Rennes.
Et puis ça marche bien d'ailleurs, grâce à ça. Voilà, ça a été efficace.
Pareil, Nantes, super recrue, Benny Traoré, bam, carton rouge. Ah, ouais. Bravo, les recrues.
Ah, oui, il avait pourtant.
Mais il y a peu de transferts malgré tout encore. Hein.
Ouais, beaucoup de prêts.
Il y a peu, ouais, y a beaucoup,
mais oui,
de
mais c'est pas
alors, on va arrêter là, jouer à l'heure qui file, les amis. On va pas faire les pronos parce que justement, le match, il est dans 6 jours. Il y aura eu plein de recrues. On va juste regarder les tweets en 5 secondes. Voilà, les tweets. Voilà, les tweets, voilà. Regardez, Nantes qui perd, Lyon qui perd et qui prend 2 rouges. On a gagné samedi soir. Rien n'est oublié dans ma commande McDo, même pas les sauces. C'est un dimanche parfait. Et on est bien d'accord. Avec JME. Voilà. Regardez ça, voilà. Avec les blessures de Bourigeaud, le fait, enfin, il n'est pas blessé, Rieder, il va avoir du champ, Jacquet, au milieu. Ça, c'est purement pour les Rennais. Voilà, il a pris sa place au milieu. Encore un gros match, regardez, de Ludo Blas hier avec Rennes. Comme quoi, il est vraiment dans l'équipe qu'il lui fallait. Quel joueur. Regardez les déplacements de Blas. Voilà, on va achever là-dessus. On va vous remercier de nous avoir suivis. Merci, messieurs. Merci au public qui était très nombreux. Bonne semaine à tous. Et évidemment, allez, Rennes.
D'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.